Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le vendredi 3 octobre 2025. Déjà 2 jours de shutdown aux USA. C'est marrant comme ce mot shutdown n'est jamais utilisé dans le monde de la finance et quand tout d'un coup les politiciens n'arrivent plus à se mettre d'accord, ça devient le mot le plus utilisé dans les médias financiers. Enfin bref, c'est le 2e jour et Wall Street s'en fout autant que le premier et probablement encore plus que le 3e. On ne sait pas quand est-ce que ça va commencer à s'inquiéter et même si on va s'inquiéter un jour, 0,1% de PIB qui s'envole par semaine, ce n'est visiblement pas suffisamment stressant, en tous les cas pas assez stressant pour empêcher les indices de battre des records. Et l'Europe d'exploser à la hausse. Donc c'est officiel, Wall Street peut vivre tout aussi bien sous shutdown que quand tout fonctionne normalement. En tous les cas, pour le moment, actuellement nous sommes dans la position du gars qui vient de sauter d'un avion sans parachute et qui regarde le sol se rapprocher à grande vitesse en se disant « jusque-là, tout va bien ». Quand on regarde la performance des marchés mondiaux, on peut clairement se dire que finalement, on pourrait tout aussi bien fonctionner sans administration et sans gouvernement. Pour le moment, Washington est paralysé, les fonctionnaires au chômage technique, les chiffres économiques bloqué, mais le Nasdaq, le S&P, le Dow et le DAX enchaînent record sur record. En Europe, l'optimisme n'est pas en reste. Le CAC 40 explose de 1,13% à 8056 points grâce à Stellantis en feu aux États-Unis, plus 16% sur les ventes en septembre, ce qui va faire plaisir aux employés de Stellantis qui sont à pied depuis une semaine. Et le DAX flirte avec son record historique de 24 639 points, dopé par l'idée que Powell, il va baisser les taux, quoi qu'il arrive. Alors oui, on le sait. Si on se plonge dans les bouquins d'histoire, un shutdown, c'est du pipi de chat pour les marchés. La durée moyenne est de 8 jours, et même le plus long de l'histoire, 34 jours en 2018-2019, avait fini accompagné d'un joli plus 10% du S&P 500 sur 12 mois, parce que la Fed avait changé de ton pile au bon moment. Et cette fois encore, le marché ne regarde qu'une chose, Powell. Les futurs donnent entre 95 et 100% de chances d'une baisse des taux ce mois-ci et presque 90% pour une autre en décembre. Powell est devenu le Père Noël de la bourse avant l'heure et absolument toutes les mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus sont interprétées comme un prétexte de plus pour qu'il descende encore le loyer de l'argent. Pendant que nous étions en train de faire le bilan de nos performances journalières, Scott Bessent, le secrétaire du Trésor, a quand même tenté de mettre un peu de gravité dans la situation que nous vivons. Comme ça, si jamais ça partait vraiment en vrille, il pourrait toujours venir dire « Ah ben, je vous l'avais dit, c'est pas ma faute !» Donc, selon Bessent, et aussi selon une étude de Morgan Stanley, chaque semaine de shutdown, c'est 0,1 point de PIB qui se volatilise. Mais bon, qui écoute encore le Trésor? Pour l'instant, les traders préfèrent voir le verre à moitié plein, même si c'est du vinaigre. Et puis, bonne nouvelle quand même, si on lit l'étude de Morgan Stanley jusqu'au bout, ils disent que selon le mode d'emploi des shutdowns dans la Bible de Wall Street, les points de PIB perdus durant le shutdown sont récupérés aussi secs dès que c'est ouvert. Elle est pas belle l'économie? Belle et résiliente. Pendant ce temps, le S&P 500 a donc battu son 30e record de l'année, le Nasdaq gagne 0,4%, le Dow Jones 0,2%, et le S&P termine en hausse de 0,1%, et au milieu de tout ce bonheur et de cette joie exacerbée, on apprend quand même que la corrélation entre les grands secteurs du S&P 500 est en chute libre. Bon, alors ça veut dire quoi ça? Ben en clair, les technos, la finance, l'énergie, la santé, la consommation ne bougent plus ensemble ou plus ou moins plus dans la même direction. C'est chacun pour soi et comme si dans une boîte de nuit, on venait tous danser avec nos casques et pour écouter notre propre musique. Salut la communion des corps et des âmes, c'est chacun dans son coin. Normalement, quand l'indice bat des records, on constate toujours un mouvement d'ensemble. Là, plus du tout, c'est le bordel désorganisé et si on monte encore, c'est un peu grave. Grâce à la surpondération de la tech dans l'indice, tant que la tech monte, ça monte, mais le jour où la tech arrête de monter, ce sera autre chose. Et il faut tout de même noter quand même qu'à chaque fois qu'on a vu ce scénario, la suite n'a pas été jolie. Le S&P a corrigé entre 5 et 18% dans les semaines qui suivaient. Alors attention, là je lève le bras. Ce signal comme quoi il y a un truc qui coince n'est pas le premier. Depuis des mois, on a des signaux qui disent « Attention, il y a un truc qui joue pas !» Là, c'est la dissonance sectorielle, mais il y a l'indicateur Buffett qui commence à dire qu'on a officiellement pété les plombs, le Case-Shiller, Cape Ratio, qui est un indicateur de valorisation long terme, qui est revenu au-dessus des 38, alors qu'il est une moyenne historique à 17. On est dans les zones atteintes de 29, 2000 et 2021. J'ai pas besoin de vous rappeler comment ça s'est terminé. Et puis, on peut citer les ventes de camions qui sont en déclin depuis plusieurs mois, quand les routiers comme commandent moins de camions, c'est que la vraie économie ralentit. Et il y a le ratio dette société par rapport au PIB. Les entreprises US sont assises sur une montagne de dettes qui sont souvent à taux variable. Si les taux ne baissent pas vite, les défauts risquent d'exploser. Sans compter que les indicateurs de sentiment de marché sont tous très très complaisants, voire trop complaisants. Et là aussi, en général, ça ne se finit jamais bien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre tout de suite et se planquer dans une cave avec ses ETF? Non. Ça veut dire qu'on est en plein dans une euphorie où plus personne ne regarde la route. On navigue sans gouvernail, poussé par le vent de l'IA et les baisses des taux promises par Powell. Tant que personne ne vient mettre un obstacle sur la route, un mauvais chiffre, une crise géopolitique ou un tweet débile de Trump en mode « Make KO great again », on continue d'avancer dos au vent. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces signaux, pour certains, sont présents depuis bien longtemps. Les excès des valorisations ne sont pas nouveaux. Le refus de voir ce qui se passe dans l'économie réelle non plus. En revanche, ce qui est très nouveau, c'est que depuis plusieurs jours, il y a de plus en plus d'experts en finance qui se sont levés pour dire « Attention, on va se la prendre, le crash est à nos portes ». Le fait qu'il n'y ait plus de corrélation entre les secteurs et la dernière alerte en date, le problème, c'est que les crashs annoncés, ça n'existe pas. Et c'est peut-être l'indicateur le plus rassurant du moment, tant que l'on viendra nous pondre des articles dans les grands médias mainstream pour nous prévenir de la fin du monde, il n'y aura pas de fin du monde. Le marché est vicieux à ce point, il vous regarde vous méfier, il vous regarde avoir peur, et il va continuer à monter pour vous convaincre que vous avez vendu trop tôt. Et quand vous aurez finalement craqué, vendu la PS5 de Junior pour acheter des actions en vous basant sur les discours délirants que vous lirez sur X, et qu'on vous vendra des bouquins qui vous expliqueront que le S&P 500 va à 50 000 dans 10 ans, alors là, oui, peut-être. Mais là, je dois vous dire que je suis presque choqué par le nombre de bears qui ressortent d'hibernation depuis quelques jours, et force est de constater que c'est en général pas comme ça que ça baisse. Mesurer l'euphorie, c'est techniquement impossible, ça n'est pas une science, c'est un sentiment, mais mesurer le niveau auquel une bulle explose, c'est encore autre chose. Et une chose est certaine, quand tout le monde crie au crash, c'est pas là que ça se produit, et là, il y a un peu trop de monde qui sont pendus au signal d'alarme. En Asie ce matin, c'est le grand écart. À Tokyo, le Nikkei s'envole de 1,6%, pas loin de ses records historiques. Merci la Banque du Japon, qui fait semblant de parler de hausse des taux, mais qui en vrai prend surtout un air inquiet pour ne rien faire. Ajoutez à ça le suspense politique. Le parti au pouvoir choisira ce week-end un nouveau Premier ministre, et les marchés adorent ce genre de feuilleton. On a vu comme ça a super bien fonctionné en France. Le clone de Macron est au pouvoir depuis 3 semaines, et il n'a pas de gouvernement, et le CAC n'a jamais été aussi haut. Pendant ce temps, à Hong Kong, c'est la gueule de bois. Le Hang Seng recule, plombé par les valeurs électriques. BYD, Li Auto, Geely, tous suivent la chute de Tesla, moins 5% à Wall Street, malgré des livraisons records. Oui, parce que tout le monde a bien compris que ces chiffres étaient dopés au crédit d'impôt US qui disparaissent bientôt. Et c'est vrai que si en plus on doit payer full price pour une voiture électrique, ça commence à faire beaucoup. La Chine est toujours fermée, le pétrole casse ses supports, toujours basé sur le fait que l'OPEP va ouvrir le robinet, c'est le serpent de mer du moment, et le WTI cotise. Ce matin, il était à 60,87, l'or se replie à 3876, le Bitcoin est à 120 000, et le rendement du 10 ans traîne toujours à 4,10. Hier soir, Tesla a surpris tout le monde avec 497 000 livraisons au troisième trimestre, largement au-dessus des attentes. Résultat, le titre plonge de 5%, c'est assez logique, me direz-vous, avec Tesla battre les prévisions ne veut jamais dire battre le marché qui avait anticipé, bien sûr. Sur un mois, le titre a quand même pris 42%, tout ça pour 3-4 bagnoles vendues en plus. Ça paraissait quand même un peu tiré par les cheveux, sans parler de la fin des crédits d'impôt que l'on mentionnait il y a 10 secondes. Les actionnaires, eux, s'apprêtent à voter sur le fameux méga package de 1000 milliards pour Elon Musk, et ça commence à grincer très fort des dents. Dans le camp des actionnaires, eh bien, on n'a pas trop envie que la boîte devienne la cagnotte perso d'Elon Musk. Mais il y a quand même une chose qu'il faut retenir sur Tesla, c'est qu'aujourd'hui, ils vendent encore des voitures pour financer ces achats massifs de GPU Nvidia, mais le marché lui achète surtout une histoire, celle d'un futur où Tesla n'est plus un constructeur automobile, mais une boîte d'IA sur roues et sur pattes pour les robots. Intel discute toujours avec AMD pour l'accueillir dans sa division fonderie, et en attendant, les deux titres grimpent, 3,8% et 3,5%, comme quoi même les ennemis héréditaires savent faire copain-copain quand il faut faire du pognon. Et puis, comme prévu par le Wall Street Journal, Berkshire Hathaway met 9,7 milliards de cash pour s'offrir la chimie d'Occidental. Et puis on reparle d'UBS, la seule et unique plus grande banque suisse se retrouve engluée jusqu'au cou dans la faillite de First Brands, fabricant américain de pièces automobiles qui vient de se déclarer en Chapter 11 avec plus de 10 milliards de dettes. UBS fait face à un scandale qui rappelle l'affaire Green's Hill du Crédit Suisse. Le fonds UBS Working Capital Finance Opportunistic Fund, géré par les filiales O'Connor et domicilié en Irlande, aurait investi près de 30% de son portefeuille dans First Brand, 9% en direct et 21% en indirect via d'autres structures. Une exposition jugée énorme, encore un coup magique du risk management qui fonctionne toujours aussi bien. Heureusement qu'on est à l'époque de l'IA. Et résultat, la chute de First Brands pourrait entraîner une perte de 10 à 20% de la valeur du fonds, soit plusieurs centaines de millions. Et des clients institutionnels de ce fonds commencent à exprimer leur colère, d'autant que la communication du PS reste floue. Selon l'article d'Inside Paradeplatz, il souligne que ce dossier met en lumière les failles du crédit privé et du financement de chaînes d'approvisionnement, un secteur opaque, peu régulé et gonflé par des milliards ces dernières années. UBS se retrouve ainsi dans une situation où elle doit rassurer ses investisseurs et éviter que ce mini Green's Hill ne ternisse davantage son image. Plusieurs fonds d'UBS sont exposés à hauteur de plus de 500 millions de dollars et comme ils sont créanciers non garantis, ils passeront probablement après tout le monde. En clair, l'argent est déjà parti en fumée. Bon, vu les montants, ils vont s'en remettre, mais il faut dire que ça tombe quand même super bien, juste au moment où le Conseil fédéral veut leur mettre la pression. Et puis, on ne peut pas terminer sans parler OpenAI. C'est officiel, la valorisation théorique de la boîte est de 500 milliards, revenu attendu 13 milliards en 2025. Autrement dit, c'est un peu comme se payer une Ferrari avec le moteur d'une Twingo. Les investisseurs parient sur l'IA comme si c'était le nouvel Apple, sauf que d'ici 2029, OpenAI pourrait brûler jusqu'à 115 milliards de cash. Pour tenir la route, la boîte multiplie les projets, e-commerce intégré à ChatGPT, appli vidéo Sora, partenariat avec Nvidia, Oracle et Microsoft, bref, une promesse gonflée à bloc, mais à cette hauteur, la moindre déception pourrait faire très très mal pour une société qui fait déjà partie du top 20 des sociétés américaines et sans être cotée en bourse. Conclusion, Washington est paralysé, mais la bourse s'en fiche. Les investisseurs ont les yeux rivés sur la Fed, les promesses de l'IA et quelques stars corporate qui tiennent encore la baraque. Mais sous le vernis des records, la confiance vire à l'excès et l'histoire montre que ce genre de scénario se termine rarement bien. Reste à trouver les points pivots, mais ça n'est visiblement pas ce soir. Côté chiffres économiques, on aurait dû s'exciter comme des fous avec les non-farm payrolls, mais que nenni, on va devoir se contenter des PMIs composites et des PMIs des services. Faute de grive, on mange des merles. Pour l'instant, les futurs sont évidemment en hausse, comme tous les jours, parce que Powell, il va baisser les taux, et que de toute façon, le chômage, il va monter, parce que si le shutdown n'est pas réglé avant la fin du mois, les 750 000 fonctionnaires au chômage technique viendront faire gonfler les statistiques. Donc, c'est que des bonnes nouvelles pour les taux qui vont baisser. Si vous savez pas quoi faire et vu qu'il n'y a pas de NFP aujourd'hui, je viens de sortir une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Zone Bourse. Le titre, c'est Nvidia et OpenAI, mariage d'amour ou union arrangée. Vous y retrouverez Martine au pays des semi-conducteurs et plein d'autres réflexions intéressantes à la mode. Passez une excellente journée, un très bon week-end et nous on se voit lundi.